Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Nous sommes heureux de vous retrouver sur la fréquence de la paix pour ce nouveau numéro de votre magazine Un jour, une histoire qui s'intéresse aujourd'hui à l'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, marquant ainsi la fin des combats de la Première Guerre mondiale de 1914 jusqu'à 1918, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Au cours de cette guerre, les Congo-Belges y avaient pris une part active, notamment sur les fronts de l'Est vers le Rwanda et la Tanzanie, et sur les fronts de l'Ouest en direction du Cameroun. Et pour immortaliser les différentes victoires des troupes du Congo-Belge, les noms de certaines localités du Rwanda et de la Tanzanie ont été attribués à des avenues de la ville de Lubumbashi, à certaines aussi de Kinshasa. C'est par exemple Tabora, Mayenge, Nyanza. Eh bien, votre magazine Un jour une histoire vous est présenté aujourd'hui par Jean-Marc Matouaki, Pamela Munazo Mwalo et Denise Maero Mwasiki Simba coproduisent votre émission. Bienvenue à toutes et à tous. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute des Radio Capi qui vous propose son magazine Un jour une histoire qui porte aujourd'hui les couleurs du centenaire de l'armistice signé le 11 novembre 1918 à 5h15. Et autour de cette commémoration du centenaire de l'armistice, nous ferons le point sur la participation du Congo à cette guerre. Et nous recevons à cette occasion Maître Marcel Yabili, auteur et homme de culture résidant à Lubumbashi où il organise à l'occasion justement de la commémoration du centenaire de l'armistice, une exposition photo dans son musée familial. Denise Maero Mwasiki Simba s'entretient avec lui. Suivez.
Maître Marcel Yabili, bonjour.
Bonjour madame.
Maître Marcel, nous vous recevons dans cette émission Un jour une histoire pour parler d'un événement, l'armistice du 11 novembre 1918. Et ce 11 novembre, ça va faire un siècle. Mais les jeunes aujourd'hui ne savent pas grand-chose sur cette date. Qu'est-ce que ça nous rappelle, maître ?
Écoutez, madame, il y a d'abord un malheur qui est arrivé parce que Mobutu, à un moment donné, il a eu des problèmes avec le cardinal Malula. Et il avait supprimé les fêtes religieuses chrétiennes. Et à cette occasion-là, il avait aussi supprimé le 11 novembre de chaque année, qui était un jour férié et qui commémorait l'armistice. L'armistice, en fait, c'est l'accord par lequel l'Allemagne avait déposé les armes après la guerre de 1914 à 1918. Ce qui fait que, normalement, ici au Congo, nous participions chaque année à cette commémoration internationale puisque le jour était férié. Mais depuis que Mobutu a fait tomber cette date, disons les jeunes n'ont pratiquement rien pour leur rappeler cette histoire de la guerre. C'est malheureux. Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous madame, qu'il y a un siècle exactement, le Congo belge avait des populations colonisées qui avaient la nationalité internationale belge. Parce que
c'était des sujets belges.
Oui, oui, parce que si vous vouliez aller dans un autre pays, on vous donnait un passeport belge, alors que vous étiez congolais. Bon, alors, de l'autre côté du lac Kivu, les Rwandais, les Tutsis, etc., eux, ils étaient colonisés par les Allemands et ils étaient des Allemands. Ce qui fait que, quand il y a eu la guerre, c'était les Belges que nous étions contre les Allemands, qui étaient les Rwandais. À l'époque, n'est-ce pas, nous avions battu les Allemands, donc nous avions battu les Rwandais. L'importance de la mémoire, c'est quoi? C'est que si on commémorait correctement le 11 novembre, on se souviendrait de ce que le Congo avait gagné une bataille sur le Rwanda, avant que la Société des Nations n'accorde le Rwanda comme tutelle à la Belgique.
Oui, oui. Alors maître, je voulais justement, avant peut-être d'entrer dans ces détails, c'est de rappeler comment finalement le Congo, qui était le Congo belge, a pu se retrouver dans cette guerre, dans la guerre de 14-18.
La guerre de 14-18 a commencé par par un événement très simple. Il y a un prince héritier d'Autriche qui a été assassiné en Serbie, à Sarajevo, et l'Autriche a demandé des excuses à la Serbie. Bon, elle n'a pas été satisfaite. Il se fait que l'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie. La Serbie était alliée à la Russie, qui a dit, ah bon, vous déclarez la guerre à la Serbie, donc vous déclarez la guerre à la Russie. La Russie était alliée à la France, ah, vous déclarez la guerre à la Russie, donc nous entrons en guerre. À ce moment-là, la Belgique était un pays neutre, hein, et les Allemands, pour aller attaquer les Français, ils sont passés sur la Belgique, et la Belgique est entrée en guerre au mois de juillet 1914. Alors, il se fait que, ici en Afrique, les Français qui étaient au Tchad ont attaqué les Allemands qui étaient au Cameroun. Il y a eu une guerre du côté du Cameroun et nos troupes congolaises ont été données un coup de main jusqu'à la prise de Yaoundé en 1916. Il y avait les Allemands qui étaient aussi en Namibie actuelle. Alors les Sud-Africains qui étaient alliés à la Grande-Bretagne, ils ont attaqué le Sud-Ouest africain qui est devenu la Namibie et ils ont pris cette place-là. Alors, il se fait que, ici au Congo, la Belgique est occupée par les Allemands au mois de juillet 1914. Le 22 août, donc pratiquement un mois après, il y a des Allemands qui viennent bombarder Kalemie le 22 août et il y a eu 2 morts congolais. Et la guerre a commencé à ce moment-là, ici au Congo. Et en 1914, c'était une surprise générale. Dans tout le Congo, il n'y avait que 5000 soldats éparpillés. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les Allemands ont pris un peu les devants et ils ont traversé le lac Kivu et ils ont occupé l'île d'Idjui. Ce qui fait que tout le temps, on s'est battu pour essayer d'empêcher aux Allemands, n'est-ce pas, de traverser. C'est ainsi que la guerre a commencé ici au Congo. Mais que pouvait faire le Congo? La Belgique était occupée, mais il y avait les alliés parce que les autres pays, les Français, les Anglais, par la suite les Portugais sont entrés là-dedans, hein, et tout. Et les Allemands, les Américains, eux, ne sont entrés dans la guerre qu'en 1917. Hein, mais à l'époque, nous sommes en 1914, 1915, on s'organise et qu'est-ce qu'on fait pour n'est-ce pas, défendre Kalemie? On va prendre des canons à Chikasifa, qui était un fort qui était à Boma pour protéger Boma. On a pris 2 énormes canons là qui sont encore visibles à Kalemie. On les a traversés, on les a transportés par bateau, par rail sur Kinshasa, puis par bateau, parce qu'à l'époque on pouvait arriver à Stanleyville-Kisangani, descendre de Kisangani à Ubundu par chemin de fer, puis de Ubundu à Kindu par bateau, et ensuite de Kindu à Kongolo par chemin de fer, et de Kongolo à Kabalo par bateau, et de Kabalo à Kalemie par chemin de fer. Et ces énormes canons sont arrivés à Kalemie. Alors, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait aussi? Eh bien, on demande à la Grande-Bretagne des bateaux. Et ils ont envoyé 2 bateaux, Mimi et Toutou, qui étaient entiers, et des bateaux qui pouvaient avoir des mitrailleuses, etc. Et ces bateaux sont arrivés en Afrique du Sud par bateau. Et de là, le chemin de fer jusque Lubumbashi, jusque Tinké. Et là, on les a déchargés. Il n'y avait pas de chemin de fer pour continuer. On les a déchargés à Tinké. Et on les a poussés sur des rondins à travers les plateaux des Biano et tirés par des bœufs, tirés par des gens, etc. Jusque Bukama. À Bukama, ces bateaux, on les a mis sur l'eau. Ils ont navigué tout seuls jusque Kabalo. À Kabalo, on les a mis sur le chemin de fer et ces bateaux sont arrivés à Kalemie, et de là ces bateaux sont entrés en guerre à Kalemie. Et il n'y avait pas que ça, madame. À l'époque, on venait, n'est-ce pas, de faire entrer l'aviation dans la guerre en Europe. Et la Belgique avait obtenu un avion de la Grande-Bretagne pour surveiller les côtes belges. Et là, ils se disent, mais non, il y a la guerre au Congo. Et les Anglais ont donné 5 hydravions pour venir faire la guerre au Congo. On les a démontés. Et tout, et ces avions, n'est-ce pas, sont venus dans des caisses par bateau jusque Boma Matadi, puis encore une fois chemin de fer jusque Kinshasa, puis Kisangani, Ubundu, Kindu, Kongolo, Kabalo, Kalemie. On les a remontés et les avions ont commencé aussi à faire la guerre. Donc c'était une guerre vraiment fantastique de tout le monde, hein, parce que il y avait des bateaux qui se battaient, il y avait les avions qui, n'est-ce pas, qui survolaient, et puis il y avait aussi les fantassins. Alors, les fantassins, c'était...
Oui, justement, les fantassins, qui sont-ils? C'est des éléments de l'armée, c'est une brigade, c'est quoi?
Non, écoutez, les fantassins, c'est une histoire tout à fait extraordinaire, parce que au départ, dans tout le Congo, il n'y avait que 5000 soldats. Alors, on a poussé le nombre en un an et demi, jusqu'à 15000 soldats, et ces 15000 soldats ont été formés, et ils étaient basés beaucoup plus au Katanga, et il y avait notamment... À Moba, il y avait une brigade cycliste, parce que vous savez, à l'époque, nous sommes en 1914, il n'y avait pratiquement pas de route, hein, et il n'y avait pas de camions, de blindés. Alors, disons, avec les vélos, on pouvait aller un peu plus facilement. Alors là, il y avait une brigade de cyclistes, qui était une brigade, n'est-ce pas, pratiquement d'élite, qui était basée à Moba. Et le grand problème qu'il y a eu pendant cette guerre-là, c'est qu'il fallait transporter le matériel. Mais comment transporter le matériel? Eh bien, madame, il y a eu 260 000 porteurs. Pas tout le temps, mais quand même des gens qu'on a recrutés, parfois pour des tronçons, etc. Mais il y a eu au total 260 000 personnes qui ont participé à cette guerre. Pas pour se battre, mais disons qu'ils étaient là pour transporter les vivres, les munitions des soldats, transporter les malades, parce qu'il y avait des malades, il fallait aussi transporter le matériel. Je vous donne un exemple. Quand on a fait la guerre, il fallait amener des obus de canon. Alors, pour amener un seul obus de canon qu'on tirait une seule fois, eh ben, il fallait un mois de portage. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et ces gens avaient des charges d'environ 25 kilos par personne et ils parcouraient plus ou moins 30 kilomètres par jour. Et il fallait aussi les nourrir. Donc, disons, c'était toute une histoire. Et d'ailleurs, quand on a fait le bilan de la guerre, ben, les porteurs, c'est eux qui ont eu le plus de pertes. Ils ont eu 5000 morts, beaucoup plus par maladie, par la faim, etc. Mais pas par les armes, parce qu'en fait, ils ne participaient pas. Et c'était quand même une participation très très forte qui avait montré que deux choses, c'est que le pays pouvait s'organiser, une guerre que vous n'avez jamais recherchée peut vous surprendre, mais on ne peut pas gagner la guerre sans la préparer. Alors on avait été surpris en 1914, mais on avait mis toute l'année 1915 pour s'organiser avec les avions, refaire une armée, etc. Et alors, maintenant, la vraie histoire c'est laquelle? C'est que au mois d'avril 1916, à ce moment-là, le Congo attaque les Allemands. Hein, et les troupes étaient dirigées par celui qui deviendra le gouverneur du Katanga, M. Tombeur, hein, avec le général Molitor. Et on traverse, on prend l'île d'Idui, on traverse le lac Kivu, on prend, n'est-ce pas, Kigali, on prend Nyanza, qui était le chef-lieu, la capitale du roi des Watutsi, donc des Rwandais. Puis on est descendu prendre, n'est-ce pas, Changungu, jusque Bujumbura, etc. Puis on est descendu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les avions qui étaient sur le lac Tanganyika, n'est-ce pas, ont commencé à harceler les bateaux des Allemands qui étaient sur le lac Tanganyika. Ils les ont bombardés. Et un jour, ils découvrent qu'il n'y avait plus rien à Kigoma, parce que les Allemands, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient vidé Kigoma et ils avaient sabordé, ils avaient fait couler les bateaux qu'il y avait. Et grâce à l'aviation, on a appris que Kigoma était libre. Et du coup, à ce moment-là, il y a une colonne qui part de Kalemie, qui prend Kigoma, et à partir de Kigoma, on prend Soke, qui était une gare, et là, on fonce droit sur Tabora. Et on a pu prendre Tabora au mois de septembre 1916. Et Tabora, c'était la plus grande victoire, n'est-ce pas, de cette Première Guerre mondiale. Et la guerre, Première Guerre mondiale, était terminée au Congo avec la victoire de Tabora. Il y a eu par la suite d'autres problèmes, parce que la Tanzanie était quand même attaquée aussi par les Britanniques. Eux, ils ont continué à se battre en 1917. Nous avons aussi participé pour Mahenge en 1917 et ils ont continué à se battre en 1918 aussi. Mais disons que pour le Congo, n'est-ce pas, la plus grande victoire, c'était Tabora. Et d'ailleurs, le gouverneur de province, M. Tombeur, on l'appelait, on l'a nommé général Tombeur de Tabora.
Alors justement, on en arrive là. Donc il y a eu plusieurs victoires, et la grande victoire dans cette guerre pour les troupes belges, ou du Congo belge, c'était Tabora. Et les troupes sont rentrées au pays, sont rentrées au Congo, après cette victoire de Tabora. Et pour marquer les différentes victoires, est-ce que c'est déjà à cette époque-là que des avenues dans la ville de Lubumbashi ont porté des noms de ces localités sur lesquelles l'armée belge, le Congo, avait remporté la guerre.
Non, madame, écoutez, ce n'est pas tout à fait comme cela. Ce qui est remarquable, c'est que nous sommes en 1914, 15, 16, 17, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Il y avait le télégraphe, d'accord, mais les gens n'étaient pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. Et les gens n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte, madame, que dès qu'on avait gagné la victoire de Tabour, il y a une partie des troupes qui sont rentrées à Lubumbashi. On a fait un arc de triomphe et une réception fantastique à Lubumbashi pour recevoir ces troupes. C'est une troupe qui était rentrée en 1917. On a fait une fête grandiose à Lubumbashi pour honorer les troupes. Parce qu'on dit qu'on a honoré les Blancs. Non, 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 écoutez, on a honoré les troupes parce que les troupes, c'était quand même les troupes congolaises. Les Noirs qui étaient quand même là. Ça, c'était la première commémoration tout à fait officielle. Et alors, il y a la capitulation de l'Allemagne en 1918 et en 1919, au mois de juin, on fait le traité de Versailles qui consolide la paix. Et à ce moment-là, un deuxième groupe de soldats congolais rentrent à Lubumbashi, cette fois-ci avec les drapeaux sur lesquels, les bannières sur lesquelles on inscrivait les noms des grandes villes où on s'était battu. Il y avait Kibati, mais Kibati n'est pas au Rwanda, Kibati est au Congo du côté de Goma. Mais pourquoi Kibati? Parce que c'était à partir de Kibati qu'on se battait pour se défendre, parce que les Allemands étaient sur l'île d'Idjui et il y a même eu des tombes à Kibati. Donc Kibati, il y avait un drapeau Kibati, il y avait un drapeau Nyanza, un drapeau Kigali, un drapeau Kato. Kato, c'est une ville de Tanzanie un peu au-dessus de Mahenge, Usoke, etc. Et alors tous ces drapeaux sont rentrés, n'est-ce pas, hein? Et à ce moment-là, quelques années plus tard, on a reconnu que c'était des lieux de victoire qu'il fallait commémorer. Et la commémoration, n'est-ce pas, a été faite en trois temps. Dans un premier temps, la réception des troupes qui sont arrivées. Et en 1919, il y a eu un autre acte de triomphe, honneur aux braves, qui a été fait à Lubumbashi, quelque chose de merveilleux, qui a disparu. C'était la première commémoration. La deuxième commémoration, c'était des monuments. On a fait des monuments un peu partout pour commémorer la bravoure et le courage des gens qui avaient été à la guerre. Alors ici, notamment, nous sommes à Lubumbashi, nous avons eu un monument aux morts, hein, qui est à la place de la poste qu'on appelle maintenant la place Tchombe. À Kinshasa, c'était la même chose. En Belgique, c'était la même chose. C'était la commémoration de la bataille d'Afrique, donc, pour les gens qui se sont battus. C'était donc la deuxième commémoration. La troisième commémoration, c'était les avenues. Et alors, ces avenues, n'est-ce pas, eh bien, on les trouve. Tabora, Usoke, Kigoma, tout ça, on les trouve à Lubumbashi, bien sûr, on les trouve aussi à Kinshasa, on en trouve à Kisangani, on les trouve aussi en Europe, et disons que avec chaque année le 11 novembre qui était férié, où on faisait un défilé militaire, donc la mémoire était toujours là pour dire que nous sommes un pays, même s'il a des difficultés, eh ben, nous sommes un pays qui a pu s'organiser, qui a pu se battre, qui a pu se défendre, qui a pu conquérir. Ce sont ces commémorations, n'est-ce pas, que maintenant on a perdu, et pire, madame, pire, hein, nous n'avons plus à Lubumbashi une avenue Tabor, elle n'existe plus, nous n'avons plus à Lubumbashi une avenue Kigali, parce qu'on croit que le Kigali, c'est M. Kagame, alors que le Kigali, c'est nous qui avions gagné la guerre sur les Watutsi. Nous n'avons plus non plus, par exemple, le monument aux morts n'existe plus. Hein. On a mis Tchombe au-dessus du monument aux morts et on a mis une fontaine devant le monument aux morts. Ce qui fait que M. Tombeur, qui était le grand général gouverneur de la province, il avait l'avenue qui est devenue Tombe Kabébé, mais il n'y a plus non plus d'avenue Tombeur, ce qui fait que ces pages de l'histoire de la Première Guerre mondiale, parce que je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, nous avions aussi gagné une très grande bataille contre les Italiens, cette fois-ci à Sayo, l'avenue Sayo est devenue Lumumba. Disons, tous ces noms de commémoration de la fierté la fierté du pays, eh ben, ces noms ont disparu et c'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile de se remémorer. Je vous dis, si un peu partout dans le monde vous voyez des petites statues, des monuments, etc., les gens trouvent quand même de la fierté. Ici, nous manquons d'éléments de fierté nationale, hein, parce que je vous dis encore une fois, la Première Guerre mondiale en Afrique, ce n'était pas une guerre parce qu'on attaquait la Belgique, non, c'était une guerre parce qu'on attaquait le Congo, hein, donc on attaquait le territoire, donc on nous attaquait nous, hein, donc, et nous nous sommes défendus, hein, avec les alliés, etc. Et je crois que c'est très important, n'est-ce pas, de pouvoir commémorer toutes ces choses. En ce qui me concerne personnellement, nous faisons une commémoration.
Justement, maître, alors, parce qu'on n'a plus d'éléments de commémoration de cette guerre, alors que le pays, comme vous dites, a montré qu'il était capable de s'organiser et de gagner des batailles. Et il nous reste peut-être quelques traces, comme vous dites, les monuments, les canons qui sont à Kalemie. Et même là encore, il faut qu'on explique pourquoi ces canons se retrouvent là, comment ça s'est retrouvé là-bas.
Ça venait du Bas-Congo.
Oui, et que ça venait du Bas-Congo. Et aujourd'hui, vous venez de le soulever, il y a des noms des avenues qui ont disparu, en fait, qui ont été remplacés par d'autres noms, alors que ça rappelait la mémoire. Et donc c'est aujourd'hui difficile pour les jeunes générations d'avoir des éléments sur cette mémoire, sur l'histoire, parce que si on parle de Tabora aujourd'hui, bon, peut-être les gens ne savent même pas pourquoi Tabora, pourquoi Kigali, et est-ce que c'est par crainte de créer une confusion vis-à-vis, par rapport à la situation régionale dans laquelle nous nous retrouvons?
Il y a une chose, hein, c'est que dans ce pays, nous avons des historiens. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de respect pour les historiens. Un historien, c'est un enseignant. Et un enseignant, eh bien, pour le moment, bon, les enseignants sont méprisés. C'est des gens qui sont mal payés, qui vont à pied, qui doivent avoir le pipe de temps en temps, presque des mendiants. Et alors, mais seulement, disons, moi, j'aimerais bien que les autorités consultent les historiens avant de prendre des décisions. Parce qu'il est tout à fait inacceptable qu'on ait cannibalisé le monument aux morts, qui a fait la grandeur du Congo depuis la Première Guerre mondiale, qu'on l'ait cannibalisé pour mettre Tshombe dessus. Je regrette beaucoup, nous sommes une grande ville. Mais monsieur Tshombe, on peut lui trouver une place avec une stèle convenable, neuve, mais pas aller cannibaliser, n'est-ce pas, un monument aux morts qui honore pas seulement les morts de 1914, parce qu'après nous avons eu une guerre en 1940, après nous avons d'autres guerres qui s'ajoutent. Et quand vous allez à Paris, vous avez l'Arc de Triomphe, mais on va ranimer la tombe du soldat inconnu, mais c'est pour toutes les guerres. Donc c'est un endroit de commémoration, de recueillement pour les gens qui se sont sacrifiés pour le pays. Et ça, je crois qu'on doit absolument mettre fin à cette confusion. Et j'aimerais bien que les historiens, malheureusement les historiens, ce sont des académiques, ils ne veulent pas se mêler de politique. Mais moi, je dis non, monsieur les historiens, il faudrait que vous fassiez des pétitions et qu'on puisse vous entendre. Il y a ici, nous avons des milliers de rues à Lubumbashi. Comment on n'a pas une rue Tabora, ou qu'on n'a pas une rue Tombeur, on n'a pas une rue une rue Sayo, etc. Donc c'est ça le problème. Mais non, au point de vue commémoration, je ne veux pas parler de moi, mais j'écris un livre là, Vraiment Congo, une tribu. Et dans ce Vraiment Congo, une tribu, il y a 5-6 chapitres qui relatent, n'est-ce pas, cette épopée de la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi un moyen d'aider les jeunes à se remémorer, parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire du Congo. Alors des petits livres comme ça les aident, et ça a une valeur didactique. Et à mon musée familial, nous faisons donc le 11 novembre, à 6h15 du matin, nous faisons l'installation d'une exposition. Pourquoi 6h15 du matin?
Justement.
Eh ben, c'est parce que il y a 100 ans, à 5h15 du matin, à Paris, on signait l'armistice. Il était 6h15 à Lubumbashi. Alors nous allons donc faire l'installation de l'exposition à 6h15 du matin, donc un siècle exactement après cet armistice. Et alors, c'est une commémoration qu'on fait. Bien sûr, on va dire, ah oui, mais écoutez, tout le pays n'est pas entraîné. Écoutez, le pays a ses dirigeants, mais le pays ne peut pas empêcher les citoyens d'être conscients et de se manifester, de manifester leur patriotisme et de montrer que nous participons à un événement mondial parce que nous avions apporté notre pierre dans ce combat-là.
Oui, justement, parce que quand on regarde dans cette période, dans les pays occidentaux, il y a des commémorations en France, en Belgique, un peu partout par rapport à cette guerre. Vous aviez dit que la date du 11 novembre qui était fériée avait été supprimée. Et donc aujourd'hui, à part peut-être ce que vous organisez comme exposition à votre musée, dans le reste du pays, il n'y a pas de commémoration par rapport à cette guerre.
Écoutez, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis en rapport avec le musée de Tervuren, je suis en rapport avec des chercheurs, des historiens du Congo, etc. Donc, disons, les personnes qui maîtrisent ces événements et qui sont prêtes à donner des communications sur le Congo, elles n'ont pas été sollicitées pour cette commémoration. Donc, je ne sais pas si ça se fait, mais apparemment, c'est comme si ça ne se faisait pas.
Au 100 ans, c'est pas rien.
Et je vous dis, et c'est très malheureux parce que je vous dis, si vous allez à Dar es Salaam, mais madame, il y a un scandale. Parce que vous savez que Dar es Salaam était une colonie allemande. C'est devenu une colonie britannique après la Première Guerre mondiale, mais à l'époque, c'était une colonie allemande. Et les Britanniques étaient seulement à Zanzibar et à Tembo. Et à Dar es Salaam, les Allemands avaient recruté les Baswahili, les Watutsi, disons, recruté des populations locales comme Allemands pour faire la guerre mondiale. Et ces gens étaient durs, hein. Ils ont même malmené la population. On les appelait les Askari. Les Askari. Est-ce que vous vous rendez compte que, madame, ces Tanzaniens qui ont été malmenés par la force publique allemande, par les Askari, eh bien, ils commémorent les Askari. Si vous allez à Dar es Salaam, il y a une grande place avec un monument en honneur des Askari. Pourquoi ? Parce qu'ils ont montré la bravoure. C'est pas qu'ils ont travaillé pour les Allemands, non, c'était quand même des Noirs. Ils ont montré de la bravoure. Il y a une place qui s'appelle avec monument des Askari. Alors, nous avons aussi à Kinshasa maintenant l'ancienne place de Forescom. On a fait une place du soldat congolais. Hein? Bon, mais moi je parle quand même de la Tanzanie parce que là, n'est-ce pas, c'est pas un geste protocolaire, mais c'est une mémoire permanente qui est là. Et le monument des Askari se trouve dans un quartier qu'on appelle Kariko. Kariko, ça vient de l'anglais carry, porteur, porté. Donc, tous ces porteurs, ces milliers de porteurs, je vous dis, au Congo, on en a eu 260 000. Tous ces porteurs qui se sont sacrifiés de manière anonyme, eh ben, il y a tout un grand quartier de Dar es Salaam qui s'appelle Kariko, qui commémore la contribution de ces gens. Alors que, en fait, les Tanzaniens sont devenus sujets britanniques. Et ils ont continué à commémorer, en fait, les ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, ouais. Mais justement, c'est très important parce que ça montre que l'histoire n'est pas faite de clichés. Hein. On ne va pas dire, non, vous les Askari, vous étiez commandés par des Allemands. Maintenant, nous sommes commandés par les Britanniques, que vous n'existez pas. Non. L'histoire est une continuité. Et c'est ce que nous devrions avoir ici aussi. L'histoire est une continuité. Les gens qui ont travaillé avec les Belges, qui ont fait des actes importants, eh ben, sont nos grands-parents et autre chose dont nous pouvons être fiers aujourd'hui. C'est comme ça. C'est ça l'histoire. Et je crois que des commémorations pareilles, nous devons absolument y participer. Parce que je vous dis, dans l'Afrique, la Première Guerre mondiale s'est déroulée en trois endroits seulement. Je ne parle pas du Maroc, parce que pour le Maroc, mais disons, c'était les colonies allemandes, c'était au Cameroun, en Amérique, Namibie et Congo, Tanganyika, Tanzanie. C'était les seuls trois endroits. Les autres Africains ne connaissent pas ça. C'est ainsi que, quand il a fallu amener des soldats en Europe, on a pris des tirailleurs sénégalais parce qu'il n'y avait pas la guerre là-bas. Il ne pouvait pas y avoir des tirailleurs congolais. Les Congolais qui ont participé à la guerre en Belgique, il y en a eu 32, c'était des Congolais qui vivaient déjà en Belgique et qui se sont portés volontaires. Hein. Mais on n'a pas pris des gens d'ici pour aller là-bas. Donc, ce qui fait que nous, Congolais, nous avons une occasion tout à fait rare de participer à cette commémoration, d'autant qu'avec la victoire de Tabora, qui a étonné tout le monde, mais c'était une très très grande victoire qui devait être notre fierté, quoi.
Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission Un jour une histoire.
Merci bien, madame.
C'est donc par ici que nous clôturons votre magazine Un jour une histoire d'aujourd'hui, axé sur l'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15. L'événement a marqué ainsi la fin des combats de la Première Guerre mondiale de 1914 jusqu'à 1918, marquant également la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Au cours de cette guerre, les Congo-Belges avaient pris une part active, notamment sur les fronts de l'Est vers le Rwanda et la Tanzanie, et sur les fronts de l'Ouest en direction du Cameroun. Et pour immortaliser les différentes victoires des troupes du Congo belge, les noms de certaines localités du Rwanda et de la Tanzanie ont été attribués à des avenues de la ville de Lubumbashi, mais aussi à celle de Kinshasa. C'est par exemple Tabora, Mayenge, Nyanza et autres. Ces magazines Un jour une histoire vous a été présenté par Jean-Marc Matwaki, Pamela Bounazomwalo et Denise Mairo Mwasiki Simba. On coproduit cette émission. Les rendez-vous est pris dans une semaine pour les prochains numéros de votre magazine Un jour une histoire sur Radio Capi. Agréable condition d'écoute de nos programmes. À la prochaine.